France Inter.
Pendant les vacances, Nicole, Aline, Louise et moi partons à vélo de bon matin pour aller cueillir des myrtilles à Overpelt. Nicole a serré sur le porte-bagages un sac isotherme renfermant des tartines et quatre petites bouteilles de coca que nous avons achetées chez Anneke avec notre propre argent. Des heures durant, nous avançons à croupetons d'un buisson à l'autre comme engourdis. Les aiguilles de pin qui crissent sous nos pieds, le vrombissement des bourdons et des guêpes autour de notre tête, les voix d'autres cueilleurs, tantôt lointaines, tantôt proches. Regarde donc, il y en a beaucoup ici. Liv Joris est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Phonie » qui vient d'être traduit du néerlandais en français. Et comme chaque soir, nous commençons en musique. De la musique, il y en a beaucoup dans le livre de Liv Joris, et on commence par Porquet et Vas.
Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Cette voix si belle et cette chanson un peu mélancolique, finalement, restitue tout à fait le climat de votre dernier livre qui rompt avec tous les livres précédents, Liv Joris. C'est un récit extrêmement grave de votre histoire familiale qui commence par la beauté de l'enfance et notamment par les souvenirs de vous, toute petite fille, dans cette propriété familiale près d'un canal. Vous pouvez décrire ce paysage qui vous habite encore ?
Bon, c'est une grande maison. En fait, c'est une parcelle, comme on dirait en Afrique. Il y a la vieille maison où mes parents vivaient auparavant. Et un annexe où il y a ma grand-mère qui vit. Et ils ont construit en face une villa blanche dans laquelle on grandit. On est 9 avec les parents, 2 et avec la grand-mère, 12 en tout. Et c'est un monde qui est un peu loin du village, bien que c'est 800 mètres. Et le canal est là. Par le canal, on peut s'échapper. Il y a un grand jardin. Derrière le canal aussi. On peut s'échapper de la maison, mais la maison en elle, la parcelle est très grande aussi. Il y a la pelouse, on joue au tennis, il y a des arbres fruitiers. Et entre les deux maisons, celle de ma grand-mère et des parents, il y a encore un chalet dans lequel mon grand frère Fony fait les répétitions.
De musique.
Oui.
Parce qu'il se voulait musicien. Il était musicien.
Il savait chanter. Et il a appris lui-même à jouer la guitare. Et à ce moment-là, il y avait les voix de Bob Dylan et Leonard Cohen qui entraient dans le village, qui venaient sur la pelouse comme ça. Et ils chantaient ce répertoire. Oui, il allait devenir chanteur. On ne savait pas trop. Mais il avait un de ses dons, c'était ça. Donc il faisait des répétitions et tout le monde venait écouter. Ça faisait un vacarme le soir.
Et vous aussi, vous étiez très admirative, comme toutes ces jeunes filles de votre propre frère, de ses talents de séduction, de cette intensité érotique et de cette voix sublime qu'il avait.
Oui, et c'est aussi, je crois, c'était les années 60 et dans un village comme le nôtre, on est loin de tout ce qui se passe à Paris, à Amsterdam. Mais lui, on dirait qu'il avait tout compris et il ouvrait les portes. Et c'est par ces portes-là que nous aussi, on sortait dans le monde. Un monde plus grand dans lequel New York semblait tout près tout d'un coup. Andy Warhol, The Velvet Underground Group. Moi, j'étais encore au pensionnat. Chez les sœurs, le lundi matin, ça sentait la vache parce que les filles venaient tous du petit village et de la ferme. Et le week-end, le frère nous amenait aux États-Unis.
Et ça sentait le hache et pas la vache.
Oui, ça, tout à fait.
Au début, ce fut le hache. Et puis, petit à petit, c'est monté, monté, monté. Votre livre est construit comme les mémoires fracassées des tragédies familiales. Des flashbacks traversent la fluidité des événements qu'on croit pouvoir maîtriser, mais qu'on subit. Au centre, il y a vos parents, votre mère et votre père. Votre père assez dépressif, un peu alcoolisé, le soir, un peu tard. Votre mère faisant semblant de ne rien comprendre à ce qui se passe sous ses yeux, et qui pourtant sait très bien que les catastrophes s'accumulent, et vous là-dedans, Liv Joris. Vous êtes lucide, toute petite?
Je crois, avec du recul, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait qu'il y avait la grand-mère. Elle était en face et je me vois toujours regardant par sa fenêtre le chaos en face. Et derrière moi, il y avait cette femme qui me parlait de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, qui priait pour les morts. Dans sa maison, tout était en ordre, tout était bien fait, il n'y avait pas de désordre comme en face. Donc j'étais attachée à ce chaos en face, mais en même temps, j'avais un endroit où je pouvais me réfugier. Et je crois que j'étais un enfant un peu vieux depuis le début, parce que ma grand-mère, elle me berçait dans ses histoires d'antan. Il y avait un frère à elle... qui avait été théologue, qui était mort très tôt, et son portrait pendait dans la chambre, et il était avec nous bientôt, bien qu'on ne l'a jamais vu, on entendait parler. Et oui, j'étais, Et je crois que ça m'a fort définie par après, quand j'ai commencé à voyager, à entrer dans le plus grand monde. Je savais très bien me retirer. J'étais un peu moine d'un côté, un vieil enfant, et de l'autre côté, je savais aussi disparaître dans un monde chaotique où il y a plein de choses différentes qui se passent. Je faisais partie des deux. Je savais que même si t'es dans le chaos, par exemple, après je pars au Congo, je suis dans des familles, je reste, je loge chez des gens, il y a un poulet sur la table dans la cuisine, mais je sais qu'il y a un endroit où je peux me retirer, ce qui est devenu l'écriture par après.
La religion tient un rôle très important à l'intérieur de ce récit intitulé Phonie, donc prénom de votre grand frère. La religion, c'est plutôt la grand-mère. La religion, c'est aller à l'église, c'est porter le missel contre son propre corps qui devient son propre cœur. C'est aussi l'endroit où le chaos s'arrête. Et vous, vous étiez croyante quand vous étiez petite et aujourd'hui l'êtes-vous toujours, Yves Joris?
Non, je crois, mon père, qui était l'enfant de ma grand-mère, il a encore grandi vraiment dans une religion. Il était assez pieux en tant qu'enfant. Mais moi, à l'âge de 11, 12 ans, j'étais, il y avait encore le rituel. Et il y avait ma grand-mère qui croyait, qui priait à longueur de journée. Mais non, je crois que la science et tout ce qu'on apprenait d'autres, on se dit non, il n'y a rien dans tout ça. Et en fait, mon père aussi, au cours de sa vie, il a commencé à perdre toutes les choses dans lesquelles il a cru. Tout au début, quand le grand frère, il n'est pas comme les autres, il est turbulent. Donc mon père dit, je vais l'envoyer au pensionnat chez les sœurs de Don Bosco, ça va l'aider. Avec le petit de 4 ans qu'on va aussi envoyer avec lui, le petit frère. Et par après, le fils revient, les deux reviennent, ils sont plus méchants qu'avant. Et j'ai vu, pendant que j'écrivais, j'ai vu mon père qui a grandi avec tant de sécurité au cours de sa vie. Il va tout perdre. Et je crois que l'alcool, il a bu à cause de ça aussi, parce que cet enfant qui a grandi orphelin de père, avec entouré de mères, de veuves et de pères en soutane, des missionnaires qui partaient au Brésil et au Congo, quand il a commencé à avoir cette grande famille qu'il a toujours voulu, il ne voulait pas être seul, mais il ne supportait pas non plus. Il était aussi, c'était un enfant, c'était le 10e enfant de ma mère, comme ma mère disait parfois.
Yves Joris, vous venez de l'évoquer, vous êtes une grande voyageuse, vous êtes une écrivaine considérable, vous avez une œuvre littéraire extrêmement diverse et magnifique, vous avez parcouru tous les continents, vous avez une méthode de travail dans le voyage qui vous est proprement particulière, que vous avez inventée et qui maintenant porte votre nom. On voyage à la Yves Joris, ou sans ça c'est pas la peine de voyager, car le voyage pour vous, c'est paradoxalement l'immobilité. C'est trouver une famille, s'installer dans cette famille, ne plus en bouger. Et finalement, on se demande à la lecture de ce dernier ouvrage, on reconsidère votre œuvre, et on se demande, mais si Yves Joris a passé son temps à aller voyager le plus loin possible de chez elle, était-ce pour fuir sa propre famille ?
Je ne sais pas. Je savais depuis le très bas âge qu'il fallait partir. C'était un peu le vent des années 60 aussi qui faisait ça. Et le frère qui disait, il ne faut pas rester ici, bien que lui, il est toujours resté, finalement. Donc, non, je crois que c'est plutôt ce vent des années 60, ces chansons de Leonard Cohen qui disait mais tu es venu, mais je ne suis qu'une gare, tu vas repartir demain. Donc, je pense que cette envie de partir a été avec moi depuis le très bas âge. Et je savais aussi que si j'allais rester, j'allais pas pouvoir devenir ce que je voulais, parce que ma maman allait vouloir que j'allais marier un ingénieur, que j'allais avoir une belle villa et 4 enfants. Et je savais que je ne voulais pas ça. Et au début, ma mère et moi, on s'est beaucoup battus. Et il y avait toujours la grand-mère entre nous deux aussi. Mais par après, je me suis rendu compte, en relisant ces lettres pendant l'écriture de ce livre, qu'une fois que j'ai décidé je pars, elle m'a quand même soutenue. Elle m'a encouragée et finalement, elle est devenue fière de moi aussi.
Vous êtes auréolée de grands prix littéraires européens, parmi eux le célèbre prix Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, un grand maître de la littérature de voyage, vous propose de l'écouter. C'est une archive INA du 25 mai 1990.
Je considère que ce que le voyage peut vous apporter de meilleur, c'est l'usure. J'aimerais terminer ma vie arrondie comme une pierre, roulée comme un galet roulé par un torrent pendant très longtemps, et léger. Et c'est cet allègement du voyage qu'on peut atteindre dans le bonheur aussi, mais qu'on peut atteindre par l'affaiblissement physique. Oui. On abaisse sa garde, on reçoit des coups, mais on comprend. Et il y a des moments où on a peur. Et c'est une peur qui est en général extrêmement fondée et juste. Et il m'est arrivé en voyage de me trouver dans des endroits où, de façon tout à fait irrationnelle, je me suis senti menacé et que j'ai quitté aussitôt. Et je suis convaincu que j'ai eu raison.
Ben vous aussi, vous avez eu peur. Vous ne la cachez pas, cette peur, Liv Joris, à l'intérieur de vos récits.
Oui, c'est bien, c'est un guide la peur. Si on n'a pas peur, on peut finir mal. Mais je crois que j'ai toujours eu un instinct assez bien, c'est ça qui fait que je vis aujourd'hui, et cet instinct s'est développé à l'intérieur de cette famille. J'en suis très consciente aujourd'hui après avoir écrit ce livre, parce que autant chez nous on a grandi dans la paix, c'était quand même une petite guerre dans laquelle j'ai grandi. Avec ce frère qui était destructeur, autodestructeur, manipulatif, beau, toutes ces choses en même temps, mystérieux, quelqu'un à suivre et après à ne pas suivre. Donc j'ai grandi avec quelqu'un pour lequel il fallait se protéger, contre lequel il fallait se protéger. Et de l'autre côté, il y avait l'ange de notre famille, Hildegard, la fille qui avait la trisomie, et qu'il fallait protéger à tout moment, parce qu'elle n'a jamais fait du mal dans sa vie. Et Fonny était le troisième enfant, moi j'étais la cinquième, et Hildke était le septième. Et je sens vraiment que j'ai grandi entre ces deux, et c'est ça qui a fait mon regard sur le monde. C'est une chose que je savais un peu avant d'écrire ce livre, mais en l'écrivant, je l'ai senti beaucoup plus fort. Parce que partout où je vais, je vais savoir qu'il faut faire attention et ne pas m'approcher à telle chose. Et de l'autre côté, partout où je vais voir ce qu'il y a de faible. Et je vais essayer de tout faire pour le protéger. C'est une chose qui, c'est une grande richesse, en fait, que ma famille m'a donnée. Mais quand on grandit là-dedans, la seule chose à laquelle on pense, c'est il faut aller loin d'ici. Et il fallait peut-être aller loin pour pouvoir voir ça. Ce qu'elle m'a donné, cette famille.
Mais le premier voyage, il était d'ordre familial, puisque vous avez décidé de partir en Afrique, c'était le Congo, sur les traces d'un grand-oncle missionnaire. Donc finalement, c'était aussi un devoir de piété familiale.
C'est-à-dire, j'ai commencé dans le monde arabe. Mon tout premier livre sur les pays du Golfe n'a pas été traduit en France. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que je ne peux pas fuir. Je viens de quelque part. Je ne peux pas aller dans le monde arabe et penser que je peux devenir arabe. Et je viens de quelque part. Donc, à ce moment-là, je me suis dit que je retourne au village. Mais pas pour aller m'enterrer là-bas, mais pour trouver un personnage qui va me faire sortir de nouveau. Et en fait, c'est l'oncle qui était le frère de ma grand-mère. Il y avait une petite peinture de hutte jaune dans sa chambre, son petit salon. Avec lequel j'ai grandi depuis le très bas âge, et lui de temps en temps il venait, donc j'ai décidé de voyager dans ses traces, et ça a été effectivement le début de mes voyages au Congo.
Vous n'êtes pas seulement, Liv Joris, une observatrice du quotidien et une écrivaine qui réussit à restituer le climat psychique, politique, intellectuel, moral des populations en péril, parce que vous choisissez souvent d'aller dans des lieux de guerre, en guerre, et dans des populations qui sont très exposées soit à la famine, soit aux adversités du climat, mais vous êtes aussi une observatrice des mouvements de la mondialisation. Et c'est le mouvement du monde qui finalement vous intéresse. Ce n'est pas simplement restituer comme une sorte d'archéologue du temps présent ce qui est en train de se passer, c'est essayer de prévoir l'avenir. Et votre travail, notamment de la présence des Africains en Chine et de la présence des Chinois en Afrique, a auguré aussi d'un mouvement qui est devenu maintenant absolument cartographié politiquement et financièrement par les grandes puissances. Est-ce que vous vous prenez aussi pour quelqu'un qui essayait de prévoir les mouvements de migration, les mouvements d'influence capitalistique et financière de demain?
C'est-à-dire, je pense que quand on voyage au ralenti, comme je le fais, on va forcément entrer dans ces mouvements. Par exemple, j'ai écrit un livre sur Damas, les portes de Damas, au début des années 90. Et les gens continuent à lire ce livre. Et je crois que c'est parce que j'ai vécu 6 mois à l'intérieur d'une famille dont le mari était en prison pour des raisons politiques. Et nous, on pense parfois qu'une guerre commence au moment où on le voit à l'écran. Mais elle commence beaucoup plus tôt. Et je crois que lorsqu'on vit dans des familles, quand on vit avec les gens, c'est ça qu'on va pouvoir voir. On va sentir que si le cœur n'est plus avec un régime, ce régime, un jour, il va avoir des grands problèmes. Et donc, au début des années 90, j'étais à Damas, j'ai vécu avec ma copine pendant 6 mois. Quand la guerre en Syrie a éclaté, j'ai compris pourquoi il y avait cette guerre. Et je crois que les gens qui lisent ce livre, ils vont comprendre mieux peut-être pourquoi une telle guerre, même si aujourd'hui ça semble à nouveau s'arranger, que en dessous, ce n'est pas du tout arrangé. Et ça, c'est une leçon, je crois j'en ai parlé auparavant, que le grand écrivain Richard Kapuscinski, le Polonais, qui a été très important pour moi, qui a voyagé bien avant moi en Afrique, c'est une leçon qui m'a appris, c'est de faire attention aux fleuves souterrains qui coulent en dessous des événements d'actualité et qui est beaucoup plus lent, mais aussi plus persistant. Certaines choses ne changent pas si vite. On dit, ah, dites-nous tout ça. Non, ça n'a pas changé. Allez creuser un peu, vous allez voir que c'est toujours la même chose et que ça vient de loin, que ça apporte l'histoire, ça apporte des coutumes. C'est des choses qui semble avoir disparu quand on voit l'actualité, voit les bâtiments ont disparu, mais les gens sont toujours là. Et ils sont là avec leur histoire à eux.
Liv Joris, vous êtes têtu, obstiné. Quand vous avez un but, vous faites tout pour y parvenir. Vous avez aussi une très bonne santé, car sans cela, vous ne pourriez pas vivre ce que vous vivez depuis des décennies. Vous avez aussi des grands maîtres qui restent comme des espèces de repères à l'intérieur de vos voyages et de votre matière d'écriture. Vous en avez cité un, c'est Kapuscinski. Il y en a un autre, c'est Népal. Mm-hmm. Népal que vous avez eu la chance de rencontrer au début de votre travail d'écrivaine de voyage. Je vous propose de l'écouter. Il va évoquer les entretiens qu'il fait avec les gens pour l'écriture de ses livres. Et là, je me dis aussi qu'il y a du Népal et il y a du Kapuscinski aussi dans votre méthode d'écriture. On écoute Népal, c'est une archive INA du 16 janvier 2003.
Je l'écris. Je procède ainsi. Si je vous rencontre pour la première fois, je vous parle tout simplement et je parle à beaucoup de gens. Et si je pense oui, ceci est intéressant, c'est cela que je cherche,
can I come and see you?
Alors je vous demande, est-ce que je peux venir vous voir et prendre des notes?
And I will always have a jacket, and there'll be two notebooks, one here and one there.
J'ai toujours une veste et deux carnets, l'un ici et l'autre là. Et nous parlerons pendant 10 minutes.
I will take my notebook out.
Et quand vous êtes lancé, je sors mon carnet, je commence à noter ce que vous dites.
I will start writing what you are saying, and you will see me writing what you are saying.
Et en me voyant écrire ce que vous dites et en me voyant noter vos paroles, vous allez parler plus lentement. C'est un instinct humain. Donc tout est fait de cette manière. Si je pose une question, j'ai toujours une indication dans mes notes que j'ai posé une question. Ainsi, je suis fidèle à ce dialogue. C'est un dialogue plus lent, mais qui garde le rythme de la parole. C'est fait à la main, et je vous assure que pendant une heure, on écrit beaucoup à la main.
Immense écrivain que ce n'est Paul, aujourd'hui un peu méconnu, alors qu'il était, dans les années 70, un écrivain célébré sur le plan international, un type horrible sur le plan humain. Très désagréable, très pète sec et pourtant immense écrivain. Il ne voulait voir personne, ça ne l'intéressait pas d'être interviewé, mais vous, vous êtes obstiné à plusieurs reprises et vous avez vécu des moments qui ont été décisifs, je crois, pour votre méthode et votre écriture, Liv Joris.
Oui, c'est-à-dire, je suis allée le voir à Trinidad, d'où il vient, et... J'avais préparé, j'étais là pendant plus qu'une semaine avant qu'il ne vienne. Et puis il est venu. Et lui, ce qu'il veut, il faut être à genoux devant lui. Par après, il va vous aider à monter. Il m'a mis à genoux, je suis venue, il parlait trop vite, donc je voulais un magnéto et il m'a amené le magnéto. Mais à un certain moment, quand il a su que je suis vraiment venue, parce que très souvent, les gens l'ont aussi attaqué. « Ah, vous avez dit ça, je n'ai pas venu pour ça. » J'ai essayé de comprendre pourquoi il a besoin d'attaquer, pourquoi il est comme il est. Et j'ai fini par comprendre, parce que c'est quelqu'un de peureux aussi. Je suis allée avec lui à une fête de mariage, et c'était avant qu'il n'ait eu le prix Nobel. Et j'avais loué une voiture, on était là dedans, avec un chauffeur et tout. Et quand on a commencé à arriver, il a dit, vous n'avez pas peur. Je dis, pourquoi j'aurais peur? Il dit, moi, les gens peuvent être tellement rudes. Et il dit, parfois, j'ai eu tellement peur que j'ai fait retourner la voiture. Et nous sommes entrés, et j'ai passé comme ça la soirée avec lui. Et il y avait un gros Indien qui est venu vers lui et dit « Ah, Mr. Naipaul, comment vous allez? Toujours pas eu le prix Nobel ?» Et il m'a regardé. Et j'ai compris cette angoisse. Comment on lui fait du mal, quoi. Parce que ça, c'est un homme d'affaires, il peut se taper comme ça, une grande fête. Et lui, il est là, le pauvre petit écrivain, et... Il ne vaudra quelque chose que lorsqu'il aura eu le prix Nobel. Quand le prix Nobel, quand il l'a eu, je me suis dit, ah voilà, ça c'est pour ce gros-là qu'il a insulté. Mais j'ai compris comment, parce que quand lui, il entre dans un taxi à Londres, à l'époque où il vivait encore, il est un immigré indien. Et à l'intérieur de lui, il a étudié la littérature anglaise, il est tant de choses, il a tellement essayé de faire partie de ce monde et le monde le met à côté. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui souffre aussi. Et j'ai compris sa souffrance pendant mon voyage à Trinidad.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Liv Joris. Dois-je dire que c'est Ray Charles?
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's right time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me.
I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, now, that it won't be long before it's prime time. Now you say you found someone that you love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
Merci pour cette chanson, Liv Joris, qui joue un rôle particulier dans votre dernier livre, Fony. Qu'évoque-t-elle pour vous, cette chanson ?
C'est une chanson que Fony a chantée pour un concours. Et nous, on était tous là. C'était une boîte comme ça, l'après-midi. On buvait la bière, le jury était là. On ne voyait rien sur leur visage. Et on était tous là, le père, les enfants... On pensait qu'il allait gagner, il n'a pas gagné. Et par après, il a commencé à lâcher un peu. Il était vite découragé. Moi, j'ai compris aussi par après qu'il ne faut pas se laisser décourager. Il faut continuer. C'était quelqu'un, il avait vite vu les choses. Il continuait. Non, ça n'allait pas. Bon, on essaye autre chose. J'ai appris qu'il fallait pas que ce soit comme ça, sinon on ne réussit pas.
Je vais lire un très court extrait de votre nouveau livre, si vous m'y autorisez, Liv Joris, parce que vous sortez des sentiers battus sur les drames familiaux, sur ce frère qui a mis la famille en péril, la totalité de la famille en péril, et ce, pour très longtemps. Mais vous ne voyez pas les choses avec commisération, avec empathie. Vous voyez les choses avec beaucoup de profondeur et de cruauté aussi. Voici ce court extrait. « Depuis que mon père est retraité, je ne l'entends plus dire qu'il veut écrire des poèmes. Il a appris le russe, l'espagnol et l'espéranto, mais ça ne lui sert qu'à écouter la radio à ondes courtes. » Il aide des amis et des connaissances à remplir leurs déclarations d'impôts, va à la chasse aux bonnes affaires chez Blocker ou à la bouquinerie Snuffle et reste pendu des heures au téléphone avec Dieu sait qui, mais à part cela, il ne semble pas savoir comment s'occuper. Avoir à charge un enfant qui gravite autour de la maison familiale avec une chartée de problèmes, ça l'arrange peut-être bien. Que voulez-vous dire par là ?
Bon, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, en fait. Hein. Ils se régalent un peu à la misère dans laquelle ils vivent ou vivent d'autres gens parce que ça les occupe. Et c'est les spirales dans lesquelles j'aurais pu disparaître si j'étais restée là-bas. Et c'est les spirales dans lesquelles je me suis retrouvée quand je suis arrivée en Syrie, par exemple, où pourtant il y avait un régime qui faisait beaucoup de mal à la famille, mais à l'intérieur de la famille, ils se chamaillent. Et ils sont aussi dans une spirale, je crois. La famille fait un peu ça. Quand on reste là, on tourne en rond. Là, on fait ça. Et pourquoi il n'a pas fait ça et... C'est un endroit où il faut partir, quoi. Et mon père, en quelque sorte, je crois, il a commencé, il aimait la poésie, il aimait l'écriture, mais puis cette charge familiale et puis son travail ont fait que vers la fin de sa vie, il était fatigué et il nous en voulait de faire autre chose que de s'occuper de son fils, par exemple, qui n'allait pas bien. Il fallait qu'on s'occupe de ça. Et c'était un problème qui était perpétuel parce qu'en fait, le frère, il s'est emparé de l'oxygène de toute la famille. Et mon père, à un certain moment, nous sommes en réunion de famille et une de mes sœurs dit « Ah, mon père a dit que j'aime tellement la fête, je suis un fêtard. » Et une autre sœur dit « C'est parce que nous sommes des fêtards de la misère. » On ne fête que lorsqu'il y a la misère. Et je ne crois pas que ça soit seulement dans ma famille que ça se trouve. Mais je vois ça souvent. Et c'est un endroit dont je me suis échappée avec beaucoup de vitesse.
Nous avons la chance d'être avec vous ce soir parce que vous êtes de passage à Paris avant d'aller à ce festival des étonnants voyageurs. Vous êtes une habituée de ce festival. Vous avez été reconnue très tôt par ce festival, et nous avons demandé avec quelqu'un que vous allez rencontrer à Saint-Malo très vite, Souleymane Bachir Diagne, de parler de vous. Écoutez-le.
Écoutez, je suis toujours ravi d'aller au festival Étonnant Voyageur. Mon goût pour la littérature de voyage et autres, ce n'est pas simplement l'imagination, c'est également malheureusement parfois des drames qui nous parlent d'une humanité qui nous est à la fois proche et lointaine. Pour vous dire, par exemple, les derniers livres que j'ai lus, qui étaient des livres de voyage, tout en n'étant pas vraiment des livres de voyage, c'était tous des livres qui ont été écrits sur la tragédie du Rwanda, par des auteurs, des écrivains africains non-rwandais, qui sont allés au Rwanda pour témoigner de ce qui s'était passé là. Donc la littérature de voyage, ce n'est pas simplement la belle imagination. C'est également, malheureusement, parfois aussi, des drames et des horreurs. Alors d'abord, j'ai aimé ce qu'elle nous dit du Congo. On sent l'attachement profond qu'elle a pour le Congo. Et ce qui fait la qualité de son travail sur le voyage, c'est qu'elle a toujours, elle entre toujours dans des vies. Voilà. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas simplement être un spectateur détaché du pays où elle voyage, elle n'est pas simplement spectatrice, elle entre dans les pays en question à travers des vies. Et dans le cas du Congo, c'est sa vie propre finalement. Et une question qui m'est venue à l'esprit, parce qu'elle parle avec beaucoup de ferveur et beaucoup de talent de tas de pays, le Mali Blues que je me suis précipité pour lire est magnifique, mais il y a le fait que le Congo est vraiment à part. Et là, je me demande si c'est son histoire personnelle de Belge liée au Congo, et également de fille d'un pasteur, je crois, qui lui a fait aimer le Congo, qui fait que le Congo, parmi tous les pays où elle a voyagé, tient une place particulière. Voilà la question que j'aurais pour elle.
Pas fille de pasteur, en fait. Fille d'un père dont la mère avait un frère qui était missionnaire, c'est ça. Oui, mais l'histoire familiale, quoi.
L'esprit oui, s'est oui, emparé oui. dans la famille.
Oui, oui, tout à fait. Je crois, peut-être ce premier livre sur le Congo, c'était aussi un peu un hommage à ma grand-mère, qui a été très, très, très importante pour moi. Parce qu'elle avait un amour inconditionnel pour moi. Et dans une grande famille.
Et pas votre père ni votre mère.
Non.
Vous étiez une parmi les autres, oui, dans la nichée familiale.
Oui, et avec un qui prenait toute l'attention. Donc, d'avoir une grand-mère qui est un peu comme une mère pour moi. Sur toutes les photos que j'ai regardées pendant que j'étais en train d'écrire le livre, on la voit avec moi sur ses bras. Et je suis vraiment son deuxième enfant. Et ça m'a donné j'étais sûre de moi, malgré le fait, toutes les insécurités avec lesquelles j'ai grandi, quelque part à l'intérieur de moi, j'étais sûre parce que j'avais été aimée inconditionnellement. Donc je crois peut-être que ce livre que j'ai écrit sur son frère, c'est lui qui est au début de ses voyages. Mais
ceci dit, Souleymane Bachir Ndiaye a raison d'insister sur le Congo, parce que non seulement vous allez au Congo pour publier ce livre qui, pour nous, est le premier à être traduit du néerlandais, et c'est ce livre qui va nous faire connaître votre amplitude d'écriture, mais vous y retournez beaucoup plus tard. C'est-à-dire, ce qui vous intéresse, c'est pas simplement les convulsions politiques, c'est vraiment la vie quotidienne des gens, ce qu'on appelle l'histoire des mentalités.
Oui, c'est une
sur
affaire de
cœur. Sur des très longues durées.
Oui, c'est une affaire de cœur. Et je crois, parce que moi, je vivais déjà aux Pays-Bas quand j'ai commencé à voyager au Congo. Et pour moi, vraiment, aller au Congo, c'était comme si je reviens chez moi. Et que je vois pour la première fois la Belgique hors de chez elle. Je connaissais pas très bien mon pays. J'ai appris à le connaître mieux au Congo parce que je voyais les Congolais me parler de mes oncles. Comment ils ont été? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Quelle mentalité ils avaient? Qu'ils se chamaillaient entre Wallons et Flamands? Parce que les Congolais, ils sont dans notre intimité. Et ça, c'était quelque chose de très particulier d'aller loin de chez soi et puis tout d'un coup découvrir un peuple qu'on ne connaît pas, mais qui vous connaît, qui est dans vos secrets. Et bon, j'y ai fait des amis et c'est un pays qui est dans mon cœur pour toujours, même si je n'y vais plus tellement pour le moment. J'ai des amis que j'ai depuis 85, depuis mon premier voyage, et je vis leur chagrin. Ils m'ont appris tant de choses, même à la fin de mon livre « Phonie ». Je parle d'un rebelle sur qui je vais écrire mon troisième livre sur le Congo. Autant cet homme a probablement fait beaucoup de mal, a subi aussi du mal, c'est aussi quelqu'un qui m'a appris des leçons de la vie très essentielles. Par exemple, quand ma mère était en train de mourir en Belgique, j'étais au fin fond du Congo, en train de voyager dans ses traces. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu rentres. Tu vas rentrer tout de suite maintenant. Et quand mon père est mort, il m'a dit, j'étais aussi auprès de lui, il dit, maintenant, tout ce que tu devais faire dans ta vie, tu l'as fait. Tu as accompagné tes parents à leur mort. Ça sont des leçons très profondes que j'ai apprises en Afrique. Et quand quelqu'un vous apprend de telles leçons, elles ce sont des leçons de ma vie. Donc, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une grande famille étendue et beaucoup de ses membres se trouvent au Congo.
Mais vous êtes toujours loin quand les êtres les plus proches de vous disparaissent. Vous n'étiez pas là quand votre père est mort, vous n'étiez pas là quand votre mère est morte, vous n'étiez pas là, je crois pouvoir le dire sans porter atteinte au plaisir qu'auront les auditeurs et les auditrices à découvrir votre nouvel ouvrage Phonie. Vous n'étiez pas là quand Phonie est mort.
J'étais là d'ailleurs quand par après mes parents sont morts, heureusement. Mais avec Phonie, j'étais au Congo. Et récemment, j'étais dans mon village, j'ai donné une conférence, quelqu'un m'a dit « Pourquoi vous n'êtes pas parti aux funérailles ? C'est quand même grave de ne pas avoir été aux funérailles. » Mais quand quelqu'un est déjà mort, le moment est passé. C'est au moment où il est devant sa mort qu'il faut être là. Et la chance que j'avais, parce que je suis restée au Congo pendant les funérailles, la chance que j'avais et que j'ai eue toute ma vie de voyageur, c'est que j'avais une grande famille. Mes sœurs et frères étaient là pour soutenir mes parents. Et je leur suis vraiment très, très, très reconnaissant parce que ça a tout changé pour moi. Si j'avais été un enfant seul, j'allais devoir partir. Et je savais... Mais c'est vrai aussi que lorsque par après on rentre, c'est très difficile. Parce qu'eux, ils ont fait le deuil et toi-même, t'as pas vécu ça avec eux. Donc, tu fais le deuil parfois 3 ans plus tard, quand le livre sort, que tu l'as dédié. Et mais ça va, c'est bon, comme ça a été. On ne peut pas faire 2 choses en même temps. Ça, donc c'est bon, comme ça. Et, mais j'avais la chance, j'étais privilégiée d'avoir cette grande famille qui s'occupait de mes parents et de leur chagrin quand je n'étais pas là.
Vous êtes frêle, vous êtes très menue, vous partez donc partout dans les situations les plus difficiles avec très peu de choses. Vous êtes une adepte du super light, du super léger. Et quand vous partez, c'est difficile, et vous le dites dans vos livres, de vous mettre en mouvement et de quitter votre village et votre pays. Ensuite, quand vous arrivez, vous allez dénicher une famille à l'intérieur de laquelle vous allez vous faire adopter, vous allez rester longtemps, et c'est difficile de revenir dans votre propre pays. Et ensuite, il y a un troisième temps. J'aimerais bien évoquer à la fin de cette émission ce troisième temps. C'est celui où vous coupez toutes les amarres avec vos amis au retour dans votre propre pays, parce que vous êtes dans une sorte de caisson d'écriture, où vous êtes en face de vous-même, au fond.
Oui, parfois, je suis à Amsterdam depuis 4 mois, je rencontre quelqu'un dans la rue, il dit « Mais tu es là ?» Je dis « Oui, depuis bien longtemps, on ne me voit pas. » Oui, quand je suis dans un livre, on ne me voit pas. Je suis moine. J'ai une fois travaillé dans un monastère et les moines me disaient que j'étais le meilleur moine de tous. Je crois ça revient aussi au pensionnat. On est au pensionnat, on est comme un militaire. Hein? On est là, il n'y a que des règles. Donc, je sais très souvent autour de moi, parce que je viens du journalisme, je vois autour de moi certains journalistes, ils ont du problème avec le livre, parce que la longue haleine, ils ne supportent pas. Moi, je supporte très, très bien. Je suis dans mon petit coin et je travaille un jour, je sors. C'est un côté de moi, j'ai besoin, je crois, de ça beaucoup, de me retirer et d'être nulle part et personne et d'être tellement petit quand on commence. On ne sait pas si on va pouvoir. J'étais peut-être encore plus petite pendant l'écriture de ce dernier livre que j'ai écrit d'ailleurs à Amsterdam. D'habitude, je m'éloigne un peu pour épargner un peu l'homme avec qui je vis, parce qu'il souffre beaucoup quand je suis proche de lui en train d'écrire, mais ce dernier livre, je l'ai écrit chez moi. Et il y a eu parfois des moments de 2 mois que je suis partie pour faire autre chose, parce que je ne savais pas comment continuer. J'avais jamais fait ça avant. D'habitude, quand je reviens d'un voyage, j'ai le matériel. Mais cette fois-ci, le matériel était à l'intérieur de moi. Il était en partie dans les documents de ma chambre, mais il était aussi dans ma tête. Il fallait l'inventer peut-être un peu plus que d'autres livres. Ouais.
Le temps de l'écriture est généralement chez vous, Liv Joris, beaucoup plus long que celui du temps que vous avez vécu dans le voyage que vous avez effectué. Pourquoi ?
Bon, c'est pas toujours le cas quand même. Mais c'est vrai, je suis lente. Je suis lente, mais je suis lente dans le voyage aussi. Avant que je ne me décide de commencer à écrire, il faut encore voir un peu là, il faut voir là. Et, par exemple, quand je suis partie en Chine pour la première fois, d'abord je suis avec les Africains, et tout d'un coup je me dis non, il faut que je sois avec les Chinois pour mieux comprendre. Donc ça prend du temps, et on est toujours très petit entre les deux.
Et il y a toujours des moments d'intense solitude dont vous avez besoin.
Ouais, ça revient aussi, je crois, à ma grand-mère qui a été mariée 1 an et demi dans toute sa vie. Et elle a eu un enfant. Et le mari est mort et depuis lors, elle n'a fait que être seule et prier pour les morts, en fait.
Ben, merci beaucoup, Liv Joris.
Et
on attend le prochain livre. En attendant, celui-ci s'intitule Phonie. C'était le prénom de votre grand frère. Il est traduit du néerlandais par Marie Hogg et il vient de sortir aux éditions Actes Sud. Merci infiniment, Liv Joris.
Thank you.
Et c'est avec Tolalito de Mélissa Lavaux que nous allons nous quitter, non sans avoir remercié Michel Bézikian qui était à la technique ce soir, Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy, ainsi que Jean-Baptiste Audibert.